Alors, parmi ces précieuses initiatives, il y a le relayage à domicile. C'est ce qu'on appelle un peu le baluchonnage québécois à la française. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Je vous propose d'accueillir nos intervenants, Laura Geoffroy, coordinatrice de la plateforme d'accompagnement et de répit des Madeleines. Elle est accompagnée de Maxime Lallemand, psychologue de la plateforme, ainsi que de Marie-Antoine Ambuc, qui vont vous livrer donc ces témoignages en tant qu'aidante. Allez-y, prenez place. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qu'est votre plateforme.
Alors, la plateforme d'accompagnement et de répit a pour mission principale d'accompagner les aidants. Concrètement, j'ai toujours le même exemple, hein, vous m'en excusez, pour ceux qui m'ont déjà vu en conférence. On peut considérer qu'à la plateforme, notre noyau, c'est l'aidant. Les autres professionnels vont intervenir auprès du proche malade. C'est lui qui est au cœur de toute l'attention. Nous, le cœur, c'est l'aidant. Et on va intervenir autour de la systémie familiale, l'ensemble du binôme aidant-aidé, pour leur permettre de vivre cette situation du mieux possible. Donc, des plateformes de répit, il y en a partout en France, notamment l'Alsace est très bien maillée en plateforme de répit. Nous, on intervient sur l'Eurométropole de Strasbourg, mais vous avez la plateforme Rivage sur Célestat et vous avez la plateforme Le Trèfle sur Bichevillers. Donc tout le Bas-Rhin est maillé de plateformes de répit. La mission principale, donc les plateformes de répit sont des services qui sont mis en place par l'ARS Grand Est, qui sont subventionnés par l'ARS, avec pour mission donc d'accompagner les aidants à travers différents points, accompagnement social, écoute bien évidemment, ce qui est un petit peu la base de tous les services de médico-sociaux, mais également de l'accompagnement psychologique, et nous avons notamment notre psychologue avec nous.
Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, il a été essentiellement question de la maladie d'Alzheimer ou des personnes touchées par cette maladie. C'est à ce moment qu'on va faire un petit virage et que notre mission concerne avant tout le répit des aidants, des familles que nous accompagnons. 900 000 personnes, nous l'avons vu, sont touchées par cette maladie, mais encore bien plus avec les familles. On parle de 3 millions de personnes en France. Plusieurs actions sont développées par la plateforme et elles ont toutes la même mission, c'est de pouvoir permettre, en tout cas à l'aidant, de pouvoir s'octroyer un minimum de répit, de pouvoir se retrouver, de pouvoir bénéficier de soins, de pouvoir reprendre des activités qu'elle n'avait plus la possibilité de faire. Toutes ces actions, bien évidemment, ont ce sens-là. En tout cas pour ma part, en ce qui concerne le suivi psychologique, nous pensons l'accompagnement des aidants, des familles que nous rencontrons sous la forme d'un parcours. À savoir que les aidants de personnes qui sont touchées par une maladie neuroévolutive ne sont pas aidants du jour au lendemain, ne sont pas aidants un mois, deux mois, trois mois, mais plutôt 5 ans, 10 ans, voire 15 ans, et ont besoin à un moment donné d'aide, de soutien, de personnes sur qui elles peuvent compter. Donc c'est pour ça que nous, avec Laura, nous sommes présents pour eux et nous nous engagerons tout au long de leur parcours pour les accompagner, les orienter, les aider à surmonter certaines épreuves qu'ils seront amenés à vivre. Ce parcours qui commence par l'apparition des premiers signes de la maladie, l'annonce d'un diagnostic, la mise en place d'aide à domicile, l'institutionnalisation, en passant par des accueils de jour, des hébergements temporaires, des EHPAD, jusqu'au décès de la personne malade. Il ne faut pas oublier non plus, et c'est important de le dire, que le soutien des aidants est primordial parce qu'il est question d'un aidant sur trois qui décède avant la personne qui est touchée par cette maladie. Ça fait énormément de personnes qui peuvent partir et qui peuvent être mises en danger. Notre mission, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est de leur permettre, à travers nos rencontres, que ce soit de manière individuelle, avec ce soutien psychologique, ou avec les groupes de parole que nous organisons sur Lingolsheim ou sur Bischheim, c'est de leur permettre de prendre du recul par rapport à ce qu'ils sont amenés à vivre. C'est de leur permettre aussi d'avoir un regard différent par rapport à la maladie, à leur manière d'accompagner leurs proches qui sont touchés par ce type de pathologie. Nous avons aussi la possibilité du fait par nos locaux d'avoir la possibilité d'ouvrir un accueil de jour un samedi sur deux, qui permet encore une fois à l'aidant de s'octroyer un peu de répit. Alors c'est sûr que ces aides sont ponctuelles, ne sont pas dans la régularité, à part pour les suivis psychologiques et les groupes de parole, mais ces petites choses, ces petites aides, ce soutien cumulé avec notre présence et notre disponibilité et ce travail que nous faisons en réseau aussi avec l'unité verte, avec les travailleurs sociaux de l'Eurométropole, avec la PRAG, la Maya, enfin tous ces partenaires avec qui nous travaillons, ben, permet en fait de pouvoir, du point de vue des aidants, de se sentir soutenus, accompagnés et de se sentir un peu moins seuls et isolés, comme ils peuvent vite se retrouver dans ce mouvement d'exclusion, d'isolement, de détresse, d'épuisement important. Donc ça, c'est notre mission principale en tout cas, et c'est notre vision de l'accompagnement de ces familles-là. Mais je vais pas m'attarder. Je vais laisser la parole à Laura, du coup, qui va vous présenter ce qu'est le relayage, ce que sont ce temps de répit. Voilà.
Alors, comme le disait Maxime, nous proposons surtout des temps de répit occasionnels, car on souhaite s'inscrire en fait dans l'offre territoriale, hein, qui est déjà proposée de manière pérenne, d'offrir des possibilités supplémentaires aux aidants et non à remplacer ce qui fonctionne déjà très bien. Notamment avec l'accueil de jour du samedi qui est occasionnel, mais également avec les temps de répit de type relayage. Donc voilà, on parlait de baluchonnage à la française parce que le droit français à l'heure actuelle ne permet pas de proposer du vrai baluchonnage comme au Québec. À savoir, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop la question, le baluchonnage québécois, c'est une personne qui vient avec son baluchon sur l'épaule s'installer au domicile d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer pendant 3 jours, 6 jours, 15 jours pour permettre à l'aidant de s'absenter, soit pour une raison médicale, pour se reposer ou autre. Actuellement, en France, une expérimentation est menée, dont une en Alsace avec l'association 2APA, qui peut proposer du relayage. Nous attendons de voir les conclusions qui seront apportées à cette expérimentation. Entre-temps, nous proposons une offre complémentaire qui est donc du relayage. C'est-à-dire qu'on va prendre le relais d'un aidant qui va pouvoir s'absenter de 3 heures minimum jusqu'à 36 heures en continu de son domicile. Concrètement, on a des aides-soignantes qui ont fait des formations qualifiantes, des ASG, assistantes de soins en gérontologie, qui vont venir pendant 3 heures remplacer l'aidant. Si l'aidant fait la toilette, elle fera la toilette. S'il y a besoin de faire le repas, s'il y a besoin de faire des changes, elle le fera. Si par contre il y a des professionnels qui interviennent, comme je le disais, on s'inscrit dans le réseau, on ne remplace pas. Donc tout ce qui est en place reste. L'idée est de perturber le proche aidé le moins possible au sein de son domicile. Quand nous faisons des interventions longues, de 36 heures ou de 24 heures, ce sont deux professionnels qui vont se relayer toutes les 12 heures. Donc l'objectif reste toujours le même, perturber le moins possible la personne accompagnée, qu'il reste dans son environnement, et de repérer ses rituels. Et quand je parle de justement garder les rituels, c'est-à-dire que ce n'est pas des interventions qui vont se faire du jour au lendemain. Un claquement de doigts, les dents s'absentent demain et on vient demain. Non, ce sont des interventions de répit qui s'organisent. On repère les habitudes de chacun, les besoins, les lieux, tout ce qui est nécessaire au bon déroulé de l'intervention. Ce n'est pas de la garderie, on n'est pas là pour faire du babysitting, hein, je tiens à le dire. On est là pour aussi permettre à l'aider de faire des activités de stimulation, de sortir s'il en a envie. On a une de nos personnes aidées chez qui on va régulièrement, qui adore aller au cinéma. Et sa famille a peur de l'emmener au cinéma parce qu'ils ont peur de sa réaction, parce que voilà, il y a différentes raisons. Elle y va une fois par mois avec une de nos ASG qui lui permet de vivre cette sortie. Et ça permet à sa fille, elle, de s'absenter pendant une journée complète et de ne penser qu'à elle à ce moment-là, tout en étant rassurée pour sa maman. Ces interventions donc ne se font pas en urgence, elles sont payantes. Nous avons pu réduire les coûts grâce à des soutiens financiers, notamment de l'ARS ou de la G2R La Mondiale. Nous sommes toujours à la recherche constante de financement pour
pour réduire les coûts autant que possible pour les familles. Donc ça, c'est pour voilà, une question d'égalité, hein, que tout le monde puisse avoir accès à ces temps de répit occasionnels. Voilà un petit peu le cadre que je voulais poser, mais le plus important pour nous est l'expérience qu'a vécue Madame Anton en tant qu'aidante. Donc je vais peut-être lui laisser la parole.
Bien sûr, voilà, qui a pu faire cette expérience et donc vous êtes aidante.
Exactement, je m'appelle Marie-Anton, j'ai 27 ans et j'ai été proche aidante de mon grand-père atteint de la maladie d'Alzheimer jusqu'au mois de septembre en fait, puisqu'il nous a quittés au mois de septembre. Aujourd'hui, avec mon témoignage, j'aimerais adresser deux messages. Le premier, c'est d'accepter de se faire aider, et ce, le plus tôt possible. Je sais, j'imagine que vous l'entendez constamment par des professionnels, par des proches. Ça a été mon cas. Il y a un professionnel aussi, l'année dernière, qui m'a dit « Faites-vous aider, vous allez atteindre bientôt vos limites, vous allez vous épuiser, et vous ne serez plus à même de vous occuper de votre proche ». Et on ne veut pas le croire, on se dit « mais non, j'ai des réserves, j'ai de la marge, je vais y arriver toute seule, c'est à moi de m'occuper de mon proche ». Et malheureusement, j'ai connu l'épuisement de l'aidant et je me suis fait aider après avoir connu cet épuisement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment sur ce point. Faites-vous aider avant de connaître cet épuisement. Le deuxième point que j'aimerais adresser, c'est de rester positif malgré les circonstances difficiles en fait, qu'on vit. Vous devez vous dire, mais comment je peux rester positif avec ce que je vis au quotidien ? C'est terrible, c'est difficile. Et je l'entends, c'est vraiment une situation qui est dramatique d'être proche aidant. C'est une situation terrible de voir son proche qui diminue de jour en jour et qui perd en autonomie. Et pourtant, ce qui m'a permis de tenir en fait, jusqu'au bout, c'est de me rattacher en fait, à des détails positifs, ce que j'ai appelé les petits bonheurs du quotidien. Et il y en a beaucoup plus que ce que l'on imagine. Alors, j'aimerais juste remettre un peu en contexte, peut-être pour vous expliquer comment je suis devenue proche aidante de mes grands-parents, enfin de mon grand-père, parce que c'est une situation qui est quand même relativement atypique. Généralement, on s'occupe de ses parents, mais pas forcément de ses grands-parents. Chez nous, c'était un peu différent, puisque j'ai grandi chez mes grands-parents maternels. Ma maman, travaillant toute la journée, ce sont eux qui me cherchaient à l'école, qui me préparaient le goûter, qui m'aidaient aux devoirs, et ce sont même eux qui m'ont emmenée aux épreuves du baccalauréat, par exemple. Donc, voilà, on était extrêmement proches, on avait une relation qui était fusionnelle, je dirais plutôt de parents à enfants que de grands-parents à petits-enfants. Et je leur suis très reconnaissante, en fait, de s'être occupée de moi pendant toute ma jeunesse, et j'ai trouvé que c'était un juste retour des choses de m'occuper d'eux quand ils avaient besoin de moi. Tout à l'heure, on parlait de l'annonce du diagnostic et chez nous, ça s'est passé de la manière suivante. Ma grand-mère et moi avions détecté des troubles du comportement, enfin des oublis de la part de mon grand-père. Il oubliait ses cartes bancaires dans les commerces, il oubliait son code de carte bancaire, il perdait ses lunettes 10 fois par jour, il ne savait plus où il les avait posées dans la maison. Et il y a 3 ans, le diagnostic est tombé, il était malade de la maladie d'Alzheimer. Nous nous en doutions avec ma grand-mère, mais lui avait beaucoup, beaucoup de mal à l'accepter. Lui qui était autrefois avocat, qui a été ancien bâtonnier. Pour ma grand-mère également, ça a été un choc. Ça a été très, très difficile à admettre quand votre mari était brillant et puis tout d'un coup, il devient dépendant. C'est extrêmement difficile à admettre. Quant à moi, je suis restée assez positive et je me suis dit, bon, le diagnostic est tombé, il faut regarder maintenant ce qu'on peut faire. Et j'ai décidé d'inscrire mon grand-père dans un accueil de jour, l'accueil de jour Osée, où il y allait une fois par semaine. Et ça s'est extrêmement bien passé. Il adorait y aller. Il a été très, très bien pris en charge. Et ils se sont aussi occupés de ma grand-mère et de moi. On a eu vraiment un soutien continu de cet accueil de jour. Malheureusement, pour mes études et pour mon travail, j'ai dû partir à l'étranger. Mais je revenais quand même systématiquement le week-end, puisque ma grand-mère était atteinte d'un cancer des os métastasé. Donc elle-même avait besoin de traitement, elle-même avait besoin de repos et c'était très difficile en fait voilà, de se reposer, de penser à elle alors qu'elle s'occupait au quotidien de mon grand-père. Et donc je prenais le relais le week-end Et puis finalement est arrivé le confinement avec la pandémie qu'on a connue, enfin, qu'on connaît actuellement, et le confinement qu'on a connu l'année dernière de mars 2020 à mai 2020. Et j'ai fait le choix de rester confinée avec mes grands-parents. Et là, ça a été dramatique puisque mon grand-père n'allait plus à l'accueil de jour, il n'avait plus aucune stimulation extérieure. On a vu son état de santé vraiment diminuer. C'était terrible. Le soir, il refusait de se coucher en me disant qu'il fallait que j'amarre le bateau. Le matin, il me demandait où est-ce qu'il allait prendre le petit déjeuner, dans quelle salle le petit déjeuner était servi. Il me demandait à payer sa chambre d'hôtel. Enfin, on vivait ce genre de situation au quotidien. Et ça a été extrêmement difficile à vivre au quotidien, surtout, comme dit, qu'on vivait 24 heures sur 24 avec mon grand-père et qu'on n'avait aucune aide extérieure. Puis heureusement, mon grand-père a pu retourner à l'accueil de jour, donc ce qui nous a soulagé une journée par semaine, ce qui n'est pas énorme puisque voilà, ma grand-mère le gérait le reste au quotidien, moi aussi, puisqu'elle était gravement malade. Et en septembre 2020, ma grand-mère nous a quittés et je me suis retrouvée complètement seule avec mon grand-père, finalement avec un, si je puis dire, un enfant, puisqu'il fallait tout faire à sa place en fait. Il fallait le réveiller, il fallait l'habiller, il fallait l'aider à la toilette, il fallait faire les courses, préparer le repas, le stimuler cognitivement, l'emmener pour se balader puisqu'il ne quittait plus la maison seule. Donc je me suis retrouvée vraiment en septembre 2020, toute seule, ma maman habitant au nord de dans le nord de la France et mon frère dans les Alpes. Et finalement, c'est terrible parce qu'on travaille à plein temps, on s'occupe presque d'un enfant. Et malheureusement, en novembre 2020, tout ça est devenu trop pour moi puisque j'avais vraiment plus aucun équilibre finalement entre ma vie privée, ma vie professionnelle et puis ma mission de proche aidante et de soignante, puisque si je puis dire, j'ai mis complètement ma vie privée de côté. Je ne voyais plus aucun ami avec, en raison aussi du Covid, pour protéger mon grand-père. J'avais plus de vie de couple alors que je suis, voilà, j'ai une relation depuis 10 ans avec mon compagnon et on ne se voyait plus, on n'avait plus aucun moment pour nous puisque mes journées étaient orientées en fait pour l'aide de mon grand-père. Quant à ma situation professionnelle, j'ai vraiment fait attention à travailler encore plus qu'en présentiel, justement pour me permettre de rester en télétravail et donc de m'occuper de mon grand-père. Et en novembre l'année dernière, ça a été beaucoup trop. J'ai complètement craqué et ma médecin traitant m'a demandé de m'arrêter 2 semaines du travail, ce que j'ai d'abord dans un premier temps refusé, mais elle l'a décidé. Et j'ai fait que dormir pendant 15 jours. J'étais plus capable ni de m'occuper de mon grand-père et encore moins de moi-même. Donc il m'a fallu des proches qui ont pris mon relais pour s'occuper de mon grand-père, mais en plus de ça, qui devaient s'occuper de moi. Donc c'était assez terrible. Et c'est là que je me suis rendu compte des propos en fait, du professionnel quelques mois auparavant qui me disait « Un jour, vous n'y arriverez plus et vous allez vous épuiser. Vous ne serez même plus capable de vous occuper de votre proche. » Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut réagir. Finalement, j'ai repris le travail 15 jours après, j'ai repris ma mission de proche aidante, de soignante. Et en janvier cette année, j'ai remarqué à nouveau des signes d'épuisement. Et là, j'ai tiré la sonnette d'alarme, me disant, c'est pas possible, je peux pas revivre cette période une deuxième fois. Et je me suis tournée vers l'accueil de jour osé de mon grand-père qui a décidé de le prendre en charge 3 fois par semaine. Ce qui était un soulagement en soi, mais ce n'est pas suffisant puisque moi, pendant ce temps-là, je travaillais. Donc finalement, ça me permettait de me concentrer sur mon travail, mais ça ne me permettait pas en fait, d'avoir une vie personnelle ou des temps de repos. Et ils m'ont conseillé de contacter la plateforme de répit Les Madeleines, ce que j'ai fait. Et Maxime s'est déplacé avec une des intervenantes au mois de janvier. Ils nous ont expliqué justement le baluchonnage. Et vraiment, je me suis sentie écoutée, je me suis sentie comprise. Et j'avais plus le choix, en fait. J'avais peut-être d'abord, dans un premier temps, un peu peur de confier mon proche à des étrangers. Mais malheureusement, je me suis dit, mais ce sont finalement des professionnels. Et il faut leur faire confiance parce que voilà, je n'ai plus le choix au vu des signes d'épuisement. Et donc j'ai expliqué la situation à mon grand-père. Je lui ai dit que j'avais besoin de repos et que c'était important pour moi qu'il l'accepte, mais que si ça ne se passait pas bien, s'il ne l'acceptait pas, c'est pas grave, on n'y recourrait plus, mais que c'était extrêmement important pour moi. Et finalement, ce week-end de fin janvier, l'intervenante est arrivée le samedi matin, puisque j'avais réservé une intervention de 36 heures. Donc elle est arrivée le samedi matin à 8 heures. Je suis partie chez mon compagnon. C'était le premier week-end depuis des mois de repos et puis de vie de couple à nouveau, de vie normale, entre guillemets. Et quand je suis revenue à 20 heures, mon grand-père, le dimanche soir, mon grand-père était presque déçu de me revoir. Et il m'a dit, quand est-ce qu'elle revient ? Alors là, j'ai compris, j'étais soulagée parce que j'ai compris, je me suis dit, ouf, ça s'est extrêmement bien passé. L'intervenante était très, très aimable. Elle m'a fait tout un débriefing du week-end. Elle avait tout noté sur une fiche. Elle avait noté ce qu'elle avait cuisiné, les activités qu'elle avait proposées, elles étaient extrêmement variées. Elle avait noté les heures de sieste, elle avait tout listé et elle m'a fait ce débriefing. Donc j'avais un peu l'impression d'avoir vécu leur week-end. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de communiquer avec les intervenantes et c'était très agréable. Puis j'ai décidé de renouveler en fait ces interventions toutes les 4 semaines. Une fois par mois, je m'octroyais un week-end de libre où 2 intervenantes venaient se relayer le week-end, et je les réservais à l'avance, 1 à 2 mois en avance. Et voilà, ça s'est extrêmement bien passé, et je dois dire, j'étais vraiment très très reconnaissante d'avoir à nouveau ces moments pour moi. Et malheureusement, ça c'était les interventions programmées, mais malheureusement vous avez dû aussi intervenir dans des situations d'urgence, si je puis dire, puisqu'il y a des moments où on sent finalement une accumulation d'événements critiques et qui nous poussent vers un épuisement qu'on n'a pas pu prévoir en fait en avance. Par exemple, au mois de mai, mon grand-père est tombé malade, donc l'accueil de jour m'a demandé de venir le chercher à l'accueil de jour. Malheureusement, ce jour-là, je devais être vaccinée pour le Covid-19. L'après-midi, j'avais une conférence. Le lendemain, je donnais moi-même une conférence et puis l'après-midi, je modérais une autre conférence. Alors, ce que je veux dire, d'avoir un grand-père atteint de la maladie d'Alzheimer de 88 ans qui circule dans la maison, qui vient devant la caméra, qui interagit pendant la conférence, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc, j'ai contacté Laura et je lui ai expliqué ma situation, puisque mon grand-père devait normalement être pris en charge à l'accueil de jour, ce qui n'a pas pu être possible à cause de sa maladie. Et je dois dire que vous avez fait tout votre possible pour rendre l'impossible possible, puisque vous êtes intervenu du jour au lendemain en cas d'urgence et ça m'a extrêmement soulagée. Vous êtes venu 2 jours au mois de début mai et ça m'a permis vraiment de me concentrer sur mon travail. Je finirai par un dernier point. Vous m'avez demandé à plusieurs reprises quelles sont les critiques que je pourrais avoir à l'encontre de votre plateforme pour que vous puissiez progresser, et avec toute la meilleure volonté du monde, j'ai aucune critique à vous adresser parce que vraiment vous avez fait tout le possible en fait pour me permettre de me reposer, pour me permettre d'avoir des moments pour moi en fait.
Merci beaucoup pour votre témoignage très touchant. Merci.